Notre émission ce matin est consacrée à l'ouvrage de Joseph Needham, savant anglais, dont on vient de traduire un ouvrage intitulé « La science chinoise et l'Occident » aux éditions du Seuil. Nos auditeurs penseront que nous avons choisi un ouvrage sur un sujet de circonstance. Ils savent tous que on discute beaucoup à l'heure actuelle de la Chine, de sa place dans l'histoire, de son passé et, disons-le, des mérites respectifs de la civilisation chinoise et de la civilisation occidentale. Nous n'entrerons pas dans ce débat contemporain qui n'est d'ailleurs pas l'objet du livre de Joseph Needham. Mais il n'est pas impossible que notre discussion de ce matin fournisse à nos auditeurs quelques éléments de compréhension de ces problèmes et que, une fois de plus, comme nous le souhaitons d'ailleurs, l'histoire du passé débouche sur une meilleure compréhension de l'histoire du présent. Nos auditeurs savent que nous avons tâché de les intéresser toutes les fois que l'actualité de l'édition historique nous le permettait à l'histoire de la Chine. Il s'agit là d'un pays, d'une civilisation trop importante pour qu'on les néglige, et d'autre part, et ici nous rejoignons d'ailleurs un des soucis de Joseph Needham, il nous paraîtrait très fâcheux que la réflexion historique, la connaissance de l'histoire, se limitât à celle de notre monde, c'est-à-dire de l'Occident. C'est ainsi que nous avons présenté aux auditeurs des Lundis de l'Histoire l'ouvrage d'Étienne Balache, « La bureaucratie céleste », paru chez Gallimard, et nous y retrouvons d'ailleurs des thèmes qui reviendront vraisemblablement dans le débat de ce matin, en particulier une idée fondamentale, la différence entre l'évolution historique de la Chine et de l'Occident au niveau des villes. Le fait que deux civilisations qui ont été des civilisations urbaines, n'ont pas connu, semble-t-il, le même type de ville et le même type d'évolution sociale liée aux villes. Disons-le, la Chine n'a pas connu une bourgeoisie capitaliste, alors que, pour des historiens de l'Occident, la bourgeoisie capitaliste est structurellement, en quelque sorte, liée au développement urbain. Nous avons également présenté à nos auditeurs le petit livre de Lucien Bianco sur les origines de la Chine contemporaine, paru dans la collection Idées chez Gallimard, et de même aujourd'hui, le livre de Joseph Needham qui s'intéresse surtout à la science de la Chine dans des périodes plus anciennes est aussi une clé pour la compréhension de l'histoire de la Chine dans son ensemble et donc de la Chine contemporaine. Enfin, et je dirais surtout, nous avons plus récemment encore présenté à nos auditeurs le grand livre de Jacques Gernet, Le Monde chinois, paru dans la collection Destin du Monde chez Armand Collin. Et si je m'arrête sur ce rapprochement, c'est pour deux raisons. C'est parce que d'une part, il y a dans l'ouvrage de Jacques Gernet une présentation et une interprétation de la civilisation chinoise et de l'histoire de la Chine dans son ensemble, comme en définitive dans le livre de Needham, et parce que Jacques Gernet a bien voulu participer à l'émission de ce matin. En effet, qui va animer le débat de ce matin ? Ce sont trois historiens, professeurs à l'école des hautes études, Jacques Gernet que j'ai déjà nommé, René Tatton et Jean-Pierre Vernant. Et chacun d'eux va apporter, je pense, à ce débat sa compétence plus particulière dans un domaine essentiel pour la compréhension et la discussion de l'ouvrage et des thèmes de Joseph Needham. Avec Jacques Gernet, nous avons un sinologue, un des meilleurs connaisseurs de l'histoire et de la civilisation de la Chine. Avec René Tatton, nous avons un spécialiste de l'histoire des sciences, et plus particulièrement de la science occidentale moderne du XVIe au XIXe siècle est donc un moment capital de comparaison entre les deux domaines scientifiques, comme on le dira dans un instant. Et enfin, avec Jean-Pierre Vernon, un historien des idées et de la société de la Grèce antique, autre domaine capital dans cette affaire. En effet, l'ouvrage de Joseph Needham, bien qu'il apporte de très nombreux renseignements, de très nombreuses précisions sur la science chinoise, et à cet égard, je pense qu'il apportera à ses lecteurs une foule d'informations, l'ouvrage de Joseph Needham est surtout une thèse. Et cette thèse, je pense pouvoir la résumer de la façon suivante. La Chine a été, dans le domaine scientifique et technologique, on reviendra sans doute probablement sur la distinction ou la confusion entre ces deux domaines, en avance sur l'Occident. Dans le domaine des inventions, dans les divers secteurs, c'est presque toujours la Chine, et parfois de plusieurs siècles, qui apporte l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, pour ne parler que de trois inventions spectaculaires, que d'ailleurs l'occidental Roger Bacon avait précisément attribué à la Chine. La Chine a été en avance. Et pourtant, cette avance dans le domaine des inventions, ne débouche pas sur la science moderne. En revanche, en Occident, longtemps en retard, et même dont beaucoup d'inventions, de techniques, ont été, semble-t-il, empruntées à la Chine, développe, au XVIe et au XVIIe siècle, la science moderne, qui est encore à l'origine de la science actuelle, de la science contemporaine. Voilà donc la première thèse de Joseph Needham. Mais Joseph Needham ne se contente pas de cette affirmation, il essaye de trouver une explication à cette différence d'évolution. Et selon lui, l'explication n'est pas à chercher dans les caractères internes de chacune de ces sciences, bien que ces caractères internes aient leur importance, mais l'explication de la différence d'évolution est à chercher dans des facteurs externes à la science, c'est-à-dire essentiellement dans les structures économiques, sociales et politiques des deux sociétés, la chinoise et l'occidentale, qui ont connu cette différence d'évolution scientifique. Et le point capital serait celui-ci, alors que la société occidentale a produit, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, une société de marchands qui a favorisé une mathématisation et une rationalisation de la science qui ont été les fondements de la science moderne en Chine, un autre type de société que Needham avec d'autres appelle d'une expression que l'on critiquera peut-être, la féodalité bureaucratique, n'a pas donné aux marchands la place qui a été la leur en Occident, et l'absence de cette classe sociale, de ses besoins pratiques, intellectuels et politiques, n'a pas permis le développement d'une science moderne en Chine. Donc, vous le voyez, une thèse, et c'est la raison pour laquelle, bien que Joseph Needham, professeur à l'université de Cambridge, ne soit pas des nôtres aujourd'hui, il va y avoir, je pense, autour de cette table, non seulement un dialogue entre les participants, mais un véritable débat sur les thèses de Needham. Et bien entendu, je m'adresse d'abord à Jacques Vernet, le sinologue, et je lui demande de nous dire qui est Joseph Needham, ce qu'il a apporté à l'histoire de la science et à l'histoire de la Chine, car Joseph Needham n'est pas, je crois, n'importe qui, c'est un savant considérable. Jacques Gernet.
Oui, je dois rappeler que Needham est, par son origine, un biologiste qui s'est intéressé à l'histoire des sciences chinoises et qui a, depuis la guerre, depuis la dernière guerre, mis sur pied une équipe importante, une petite équipe plutôt, à Cambridge. Depuis donc l'après-guerre, Needham a produit avec son équipe une œuvre très considérable. C'est pourquoi je pense qu'il est heureux que, enfin, le grand public français puisse disposer d'une traduction d'un de ses nombreux ouvrages. Et celle-ci est précisément très intéressante par les problèmes qu'elle pose.
Oui, je me permets de vous arrêter un instant, Jacques Gernet. Bien que ce ne soit pas l'objet de notre débat de ce matin, je crois que nous pouvons préciser à l'usage de nos auditeurs qui aimeraient aller plus loin que l'œuvre à laquelle vous faites allusion, c'est essentiellement une très grande publication sur l'ensemble de la science et de la civilisation chinoise, dont plusieurs volumes ont déjà paru, qui est en anglais, qui est un ouvrage capital et auquel, bien entendu, ceux d'entre eux qui seraient intéressés et qui liraient l'anglais peuvent se reporter. En ce qui concerne l'ouvrage dont nous parlons ce matin, il est essentiellement composé, c'est un recueil d'articles et de conférences de Joseph Needham. Je crois qu'il fallait le dire parce que ça explique peut-être certains caractères de cet ouvrage et certaines réserves que vous serez peut-être amené à faire.
Oui. Oui, je crois qu'en effet, c'est essentiellement à la grande œuvre, le Science and Civilization in China, qu'il faut se rapporter si l'on veut avoir une idée de l'apport véritable de Needham. Ce qu'il dit ici sur l'histoire des techniques et l'histoire de la pensée scientifique chinoise est relativement sommaire et il y aurait lieu, évidemment, de préciser, peut-être avant de commencer cette discussion, tout ce que Needham a découvert dans l'histoire des sciences chinoises. Et parfois, Needham et son équipe ont fait des découvertes remarquables, tout à fait sensationnelles, qui bouleversent la conception qu'on se faisait précisément de ces techniques et de cette science chinoise.
Jean-Pierre Vernon.
Non, je crois que c'est une incidente. Et je prie Jacques Gernet de m'en excuser. Il me semble que ce livre est certainement sommaire par rapport à la grande œuvre de Needham. Il y a 4 volumes, je crois, qui sont actuellement publiés.
Plus 6.
Je suis en retard de 2. Mais ce que je veux dire, c'est que tel qu'il est, ce livre, qui est constitué en effet par un recueil d'articles et de conférences, a une très grande unité parce que toutes ces études sont centrées au fond autour de ce qui est aux yeux de Needham le problème fondamental. Et il me semble que pour le public français, ça n'est pas sommaire, mais au contraire, c'est un livre de première importance, à beaucoup de points de vue.
Oui, je le pense aussi, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, tout ce qui a trait à l'histoire même des techniques chinoises est passé en gros sous silence. Il y est fait allusion, mais enfin, de façon rapide quand même. Le problème de la découverte de la fonte très, très, très précoce en Chine, au 4e, au 5e siècle, au 4e siècle et avant notre ère, l'attelage rationnel du cheval, l'étrier, les ponts à arches segmentées, les écluses, le gouvernail des tambours, la boussole, la cartographie quantitative. Et puis alors, une série aussi d'inventions techniques fondamentales qui ont eu un rôle capital dans le développement de la mécanique aussi, qui sont la bielle, la conversion du mouvement rotatif en mouvement alternatif, la chaîne de transmission, la manivelle, le treuil. Il me semble par conséquent qu'il y a là tout un ensemble très considérable d'inventions qu'on voit, d'après l'œuvre de Needham, arriver par grappes en Occident. Et il se trouve que c'est tout le problème des transmissions entre l'Asie orientale et l'Europe. Il se trouve que ces apports successifs coïncident avec des périodes très particulières de l'histoire. Ce sont les croisades. C'est l'unification de l'Eurasie par l'Empire mongol, C'est aussi les relations de Venise avec l'Extrême-Orient. Enfin, il semble bien qu'il y a un problème de transmission qui se pose, que Needham pose un problème de transmission dans l'histoire générale du développement de l'humanité, et pas seulement de l'histoire des sciences et des techniques. Et j'aimerais bien que l'on puisse discuter de cela. Par conséquent, ce n'est pas une simple curiosité et par un hasard tout à fait imprévu que sont arrivées en Occident des inventions aussi capitales que la poudre à canon, mais pas seulement la poudre à canon, mais déjà l'utilisation de la poudre à canon dans des systèmes d'armes primitifs, à partir desquels l'Occident a développé le canon, l'imprimerie, la boussole, le gouvernail des tambours, etc. Il y a donc là un problème général qui se pose. À mon avis, d'ailleurs, la Chine n'a jamais été aussi isolée qu'on le dit, et il y a véritablement une histoire mondiale. Et on ne peut pas imaginer l'histoire de l'Europe, on ne peut pas l'expliquer sans faire appel à l'histoire de l'Inde, à l'histoire du monde musulman et à l'histoire de la Chine.
Oui, Needham d'ailleurs y insiste, et je crois que là, il y a une idée fondamentale et que nous admettons tous. Jacques Gernet, vous me permettez d'ajouter encore à ce que vous venez de dire et qui est essentiel. Peut-être une chose, je ne veux pas déjà entrer dans les systèmes d'interprétation, mais il est bon, peut-être dès maintenant, de souligner justement l'impact de ces inventions arrivées en grappe, comme vous le rappelez justement après Needham, en Occident. Le problème des transmissions, vous l'avez dit, il est certainement extrêmement important. Dans beaucoup de cas, malheureusement, nous le connaissons mal. Comment s'est fait le cheminement? Par quels intermédiaires? Les cas où nous sommes bien renseignés sur cet aspect pourtant capital de l'histoire de l'humanité, nous le connaissons souvent très mal. Ce que nous connaissons mieux, et qui, à nos yeux, comme à ceux de Needham, est capital, c'est l'impact qu'ont ces inventions sur la société qui les adopte et qui les reçoit, en l'occurrence la société occidentale. Vous avez parlé de la poudre à canon, et on a pu dire, avec peut-être un peu d'exagération, mais non sans raison, que la poudre à canon a amené la disparition de la classe militaire féodale en Occident. J'aimerais à cet égard, c'était la chose en fait que je voulais ajouter, qu'il y a eu au début de l'histoire du Moyen-Âge occidental une autre invention antérieure en Chine qui a eu aussi sans doute une très grande importance, c'est qui est l'étrier. Needham cite avec raison un historien des sciences en Occident, Lynn White, qui, dans un livre traduit il y a quelques années en français, a insisté sur l'importance de cette apparition de l'étrier en Occident entre le 6e et le 9e siècle, et qui en fait, avec lui aussi probablement un peu d'exagération, mais non sans raison, la base de l'apparition de la féodalité de cette classe militaire féodale.
Avec,
Jean-Pierre Vernon.
Avec la contrepartie négative, c'est que dans un monde comme celui de la Grèce archaïque et classique, où il n'y a pas d'étrier, il n'y a pas non plus, la cavalerie ne peut pas jouer sur le terrain militaire un rôle analogue à celui qu'elle jouera dans l'Occident avec l'étrier. Parce que, effectivement, on ne peut, c'est la phalange d'hoplites qui s'affronte, et ça ne peut pas être la cavalerie qui joue un rôle militaire tout à fait différent, précisément parce que sur le plan de la technique proprement dite, il y a un certain nombre de barrages qui sont décisifs.
À propos de l'étrier, je crois qu'il faudrait peut-être ne pas parler que de la Chine, mais de l'Asie orientale en général. Parce que des inventions comme celle de l'étrier, celle du harnais, de l'attelage rationnel du cheval, se sont faites aux confins du monde nomade et du monde chinois. Et je crois que parler uniquement de la Chine, c'est un petit peu restreindre le problème.
Jacques Gernet, vous allez au-devant d'une question que j'allais vous poser, et qui est celle-ci. C'est que dans ce domaine des inventions, des influences, des emprunts, est-ce que Needham ne fait pas justement la part un peu trop belle à la Chine?
Je ne crois pas.
Non.
Au total, je ne crois pas.
Quand même, c'est vrai. C'est vrai que c'est malgré tout en Chine que ces inventions capitales ont été trouvées. Et d'autre part, dans le sens des emprunts, Needham privilégie la voie qui va de l'Est vers l'Ouest. Les inventions cheminent de la Chine vers l'Occident. Eh bien, il n'y a pas eu des chemins inverses, non ?
Je crois que c'est un peu normal, puisque l'Occident, jusqu'au XVIe siècle, était du point de vue de l'histoire des techniques très en retard sur la Chine. Par conséquent, il est normal que ce soit dans ce sens-là que s'est effectué le transfert. Maintenant, Needham, au cours dans son grand ouvrage, cite de nombreux cas d'influence arabe en Chine, babylonienne en Chine, indienne également.
Ça apparaît moins dans cet ouvrage-là.
Ça apparaît moins. C'est un hasard. C'est parce que le thème choisi. Il y a autre chose que je voudrais ajouter à propos de l'apport de Needham, c'est qu'il a révélé qu'il y avait différentes attitudes scientifiques ou parascientifiques, oui, si on veut, et que l'on voyait en Chine une espèce d'intérêt privilégié pour certaines formes de pensée scientifique qui se sont développées dans la science moderne, après l'époque de son commencement, après l'époque de Galilée, par exemple, le magnétisme, n'est-ce pas, l'intérêt pour les phénomènes magnétiques qui ont été beaucoup plus développés en Chine, beaucoup plus tôt qu'en Europe, les problèmes d'immunologie qu'on voit apparaître en Chine beaucoup plus tôt, les Chinois soupçonnaient l'existence des hormones. On a une ébauche de théories ondulatoires dans la pensée chinoise. Et tout cela constitue aussi une orientation très importante, très originale, la pensée chinoise étant surtout axée sur, étant une pensée qui s'intéresse aux dynamiques, au dynamisme, au changement et aux facteurs de changement. Tandis que je crois qu'on va revenir là-dessus à la fin de cette émission, qui c'est en effet un des problèmes capitaux. La pensée occidentale s'est toujours intéressée à ce qui était éternel, immuable.
Oui, à cet égard, je me permets, car je crois que vous avez là abordé un point essentiel, et une des études qu'il y a là est, à mon avis, c'est celle qui est le plus fouillée dans le détail et que j'ai trouvé très passionnante, le temps et l'homme et l'homme oriental, où il y a cette magnifique citation d'un ouvrage chinois, « Le changement, c'est la seule chose dans l'univers qui soit le non-changeant. » Je crois qu'il y a là, enfin, une très belle expression, ce phénomène capital de la pensée chinoise que vous venez de souligner, Jacques Gernet.
Et je voudrais ajouter aussi autre chose du point de vue de l'histoire des sciences. C'est que, du fait de son système politique et social, la civilisation chinoise est une de celles où on a le plus grand nombre d'enregistrements de choses, de faits précis, d'enregistrements de phénomènes physiques, naturels, le plus aussi de mesures. On a toute une série d'inventions qui ont servi à mesurer des odomètres, sismographes, très tôt un sismographe qui apparaît au IIe siècle après Jésus-Christ, ce qui est remarquable, des pluviomètres, des nivomètres, et puis un enregistrement systématique de tous les phénomènes célestes, des comètes, des taches solaires, des novées, etc. Il y a aussi des expéditions scientifiques tout à fait remarquables. Très tôt, par exemple, au 8e siècle, dans la première moitié du 8e siècle, on mesure l'ombre du gnomon depuis la Mongolie jusqu'au centre du Vietnam. C'est une expédition scientifique, une des premières de l'histoire du monde. Le Li, il ne faut pas oublier que le Li, c'est-à-dire la mesure de distance qui est à peu près 1,5 km, a été mesuré en fonction du méridien terrestre dès 1702 à la demande de l'empereur Kangxi, c'est-à-dire 90 ans avant le mètre. Tout cela, ça me semble quand même assez capital, assez important. Et il y a enfin une question que je voudrais poser qui intéresse l'histoire du développement de la pensée scientifique en Europe et de la pensée philosophique, c'est le problème de l'horloge à échappement. Needham a découvert il y a une dizaine d'années que les Chinois avaient mis au point une horloge à échappement, une horloge mue par l'eau hydraulique, mais avec un système de godet basculant dont le déclenchement était réglé de façon extrêmement précise, n'est-ce pas ? Et il semble avoir trouvé là, dit-il, le lien, le chaînon intermédiaire entre la clepsydre de l'Antiquité et l'horloge à balancier du monde de l'époque moderne. Et il suppose, peut-être un peu gratuitement, que ces types d'horloges avait été connu, qu'on en avait entendu parler, et que c'est de là que est peut-être venue cette idée très occidentale que le monde est une mécanique bien ordonnée qui fonctionne toute seule.
Qu'est-ce que vous en pensez, René Tatton? À cet égard, je pense que Needham a été aussi influencé précisément par le livre de Lynn White dont je parlais, parce que si la première partie du livre de Lynn White est consacrée à la thèse de l'étrier comme fondement de la classe militaire féodale, la dernière partie est consacrée précisément à l'apparition de machines à la fin du Moyen-Âge, et en particulier à l'horloge, et à l'idée de sa liaison avec une mécanisation du monde, est lié aussi à une nouvelle évolution sociale, mais n'anticipons pas sur cet aspect. René Tatton.
Moi, je ne pense pas que l'introduction de l'horloge ait eu des répercussions sur la modification de la structure du monde en Occident. Il y avait un système qui marchait bien pour la science médiévale, c'était le système d'Aristote et de Ptolémée, où tous les mouvements étaient prévus, et puis après, on a changé après Copernic, mais je ne pense pas que le modèle de l'horloge, un modèle quand même assez élémentaire, ait pu jouer un rôle, puisqu'on avait déjà un système où, qui avait son unité profonde.
Oui. Moi, je suis un petit peu quand même ébranlé par un certain nombre de phénomènes autour de l'horloge que l'on voit au XIVe et au XVe siècle. Que vous connaissez mieux que moi encore, les répercussions de l'introduction du temps mesuré par heure et par horloge dans la vie urbaine, dans la vie collective, dans la vie individuelle, l'image de l'horloge qui se transmet comme modèle de cadre de la vie morale. L'horloge qui devient l'instrument qui rythme l'emploi du temps quotidien et l'emploi du temps vécu d'une façon morale, et de même la façon dont l'horloge commence à s'approcher de l'homme individuel, la façon dont l'horloge est en train de se transformer en montre et l'importance que cela a pour l'homme individuel et pas seulement pour l'homme collectif. On voit apparaître dans la seconde moitié du XVe siècle, un document de Milan nous l'indique, des montres qui sont d'ailleurs fixées sur le col des pourpoints qui ne sont pas encore au poignet, mais il y a là, me semble-t-il, quand même une montée de la mesure du temps, de la mécanisation de la vie qui a dû avoir une certaine importance. Mais, bien entendu, ici, nous trouvons un très gros problème. Quel est le rapport entre l'impact des inventions sur la vie quotidienne et le problème du développement interne de la science elle-même, où il est très probable, comme vous le dites, René Tatton, que l'horloge n'a pas eu le rôle décisif auquel songe peut-être Needham. Il y a là deux domaines qui sont en rapport l'un avec l'autre, qui sont deux séries séparées.
Un autre rôle qui me paraît plus important de l'horloge, c'est de permettre l'introduction véritable de la mesure dans les sciences expérimentales. Évidemment, au début, c'est un instrument très imprécis. Ce n'est pas un véritable instrument. Au XVIIe siècle encore, il y a des expériences de mécanique où la mesure du temps se fait par l'intermédiaire d'un moine qui compte. Car l'horloge n'est pas encore assez précise. Elle va devenir au milieu du XVIIe siècle. Mais c'est quand même un symbole. Un symbole qui va permettre à Nicolas de Cuse d'envisager la mesure dans les sciences physiques et dans les sciences de la nature. Et ceci va permettre l'éclosion de la science expérimentale véritable.
Dans ce que Jacques Gernet vient de dire, il y a deux affirmations concernant la science occidentale, et je voudrais demander à Jean-Pierre Vernant et à René Tatton s'ils sont d'accord. L'une, c'est que la science occidentale serait plutôt une science des vérités éternelles et non pas du changement, et l'autre, que la science occidentale aurait moins tôt et moins profondément accueilli l'observation que la science chinoise. Vous êtes d'accord, J.P. Vernant, la science grecque, c'est la science des vérités éternelles?
partie, ça me semble vrai. Je veux dire que je pense à un travail de Coyuré que Tatton connaît bien, où il montre à quel point, ça s'appelle je crois la science de l'à peu près ou quelque chose comme cela, où il montre à quel point il y a dans l'ensemble une coupure dans la pensée scientifique grecque, une opposition entre ce qui appartient au domaine céleste et où il s'agit de mouvements qui sont des mouvements réguliers, constants, et d'autre part le monde qui est le monde du mouvant, du changeant, et ici la comparaison avec la Chine est très, très frappante, et où par conséquent il n'est pas possible d'avoir une certitude scientifique parce que le temps n'étant pas mesurable de la façon où il le deviendra précisément lorsque de façon systématique des techniques permettront sur les plans de la pratique sociale générale et sur le plan des techniques scientifiques particulières de rendre le temps quantifié, dans le domaine grec, nous ne sommes pas sur ce plan-là et nous avons bien une coupure. Mais, avant de demander à Tatton, qui est beaucoup plus compétent que moi sur ce plan, je voudrais faire une remarque et qui, me semble-t-il, va assez loin par rapport à notre débat. Nous disons, ce sont les Chinois qui ont inventé un type d'horloge permettant une mesure précise du temps. Bien. Ces horloges, elles jouent un rôle de chaînon intermédiaire et elles ont permis le développement de cette façon autre de vivre et de penser le temps à tous les niveaux, dans la vie sociale, dans la vie personnelle et dans la pratique scientifique. Mais en même temps, cette mécanique qui permet de penser le temps, elle naît dans un monde dont on vient de nous dire que son orientation scientifique n'est pas mécaniste, mais qu'il est dynamiste, qu'il repose sur les influences. Alors, il doit y avoir là un certain nombre de difficultés. Vous comprenez bien que nous sommes au cœur du débat sur les rapports des techniques et des sciences.
Avant que Jacques Gerner réponde peut-être à cet aspect, René Tatton.
Oui, vous venez bien de montrer qu'au fond, le modèle de l'horloge, dans la formation de la pensée scientifique moderne, n'a pas joué pour le monde céleste, qui avait déjà son propre mécanisme. Il a joué, au contraire, pour la formation de la physique terrestre.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire la création de la science expérimentale. Ouais. Et puisque nous parlons de l'horloge, il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, l'horloge a été un sujet de recherche privilégié, mais de recherche technique cette fois, pour avoir un perfectionnement suffisant de l'horloge permettant son application précise aux techniques de navigation. Je ne pense pas que l'horloge chinoise ait permis de naviguer, de déterminer, non, de faire le point.
Absolument
avec une
pas.
Précision
non,
suffisante.
Je crois que je peux répondre à
oui,
la question qui a été posée par M. Le Goff et aussi par Vernant. C'est, en fait, cette horloge qu'on appelle horloge, c'était plutôt un mécanisme destiné à reproduire exactement les mouvements de la Terre et du ciel. Et que c'était accessoirement une horloge. Et d'ailleurs, il s'agit d'un ensemble extrêmement imposant, une construction d'une grande importance qu'il n'était pas question de déplacer sur des bateaux ou ailleurs.
Un incident, je voudrais vous poser une question. Nous reviendrons au cœur du débat, je pense, ensuite. On vient d'évoquer la boussole, le gouvernail des tambours, etc. J'ai été un petit peu étonné, en mauvais connaisseur que je suis de l'histoire de la Chine, par l'affirmation de Needham, selon laquelle les Chinois et la science chinoise se seraient peu intéressés à la mer. Or, nous voyons arriver justement de la Chine, parmi les inventions qu'elle lègue en Occident, des inventions qui bouleversent, au contraire, quelque chose d'essentiel dans la civilisation occidentale. Enfin, disons-le tout net, ce qui permet au niveau technique les grandes découvertes. Alors, est-ce qu'il y a là un véritable contraste ?
Non, je crois que ça dépend de ce dont on parle. Si on parle de la Chine intérieure, il est évident que les Chinois du Kansu ne sont pas des marins. Mais par contre, les Chinois du Guangdong, du Fujian sont des marins.
C'est ça, c'est ce qui me semblait. Et je me rappelle, parce que ceci nous rappelle un thème dont nous avions parlé, Jacques Gernet, à propos de votre livre, il y a peut-être une trop grande tendance, à mes yeux, peut-être je me trompe, de Needham de considérer justement, dans ce domaine de la science et des techniques, la Chine comme une unité. Je pense que quand même, là, il doit y avoir quand même des Chines qui doivent introduire c'est des nuances assez importantes.
Absolument évident. Absolument
évident. Mais sur ce point capital, donc, de la, la façon dont Joseph Needham a révolutionné, au fond, ce que l'on sait de la science chinoise et dont vous nous avez donné à la fois des exemples et des traits fondamentaux essentiels, qu'avez-vous encore à ajouter, Jacques Gernet?
Eh bien, je crois que un des apports les plus importants, je crois, de Needham, de mon avis, c'est que tout ce qu'il nous donne permet de se faire une autre idée de l'histoire de la Chine et une idée évolutive. Et je crois que c'est très important, je reviendrai là-dessus, parce que Needham, précisément, a l'air de se référer, dans son ouvrage, dans ce livre, a l'air de, très souvent de se référer à des conceptions de l'histoire qui sont en contradiction, précisément, avec tout ce qu'il apporte sur les techniques chinoises, qui ont fait qu'en réalité, il y a eu une évolution de la Chine. Très importante, que je crois très importante, beaucoup plus importante qu'on le dit, et qui a été masquée toujours par un cadre administratif à peu près apparemment semblable.
Oui, c'est sa critique de l'idée, du mythe de l'Orient stagnant, de la Chine immobile, à laquelle il oppose d'ailleurs une conception qui n'est pas pas proprement parler, peut-être une conception évolutive, parce que il a toujours le souci à la fois de restituer cette dimension d'évolution dans l'histoire de la Chine, mais quand même d'expliquer certains blocages, et il en arrive à cette notion d'une histoire, pour reprendre son terme, homéostatique, oui. C'est-à-dire qui crée et recrée sans cesse un certain niveau d'équilibre. Vous êtes d'accord avec cette conception ?
Je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je crois que les changements étaient beaucoup plus grands que ne le pense Needham. Et que, en tout cas, on peut signaler dans l'histoire de la Chine une grande révolution. Avant la dernière, celle de nos jours. Mais il y en a une autre, c'est celle qui se situe au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a été absolument capitale, parce que c'est la substitution d'un système féodal, qu'on peut qualifier, je crois, de féodal, à un système étatique centralisé qui est quelque chose de radicalement nouveau. Là, il y a véritablement une révolution. Et précisément, les techniques sont en cause dans cette révolution. En tout cas, je crois qu'elles ont joué leur rôle, et en particulier la technique de la fonte du fer.
Oui, mais il y a...
Jean-Pierre Vernant.
Il y a... Tu disais, Jacques Gernet, tout à l'heure... Tu disais qu'il y a eu des profondes révolutions, même si il y avait un cadre administratif qui était resté le même. Alors, tout le problème est là, parce qu'au fond, l'essentiel de la thèse de Needham, c'est de dire qu'il y a une différence, et que cette différence, elle est dans le caractère très marquant, sinon permanent, en Chine, d'un cadre administratif central, c'est comme ça qu'il explique, enfin, il reprend au fond cette notion bureaucratique sous cette forme.
Alors, ça, il y a beaucoup d'affirmations de Needham qui auraient besoin d'être ou carrément réfutées, oui. ou atténuées, ou par exemple quand il dit que les Chinois n'ont jamais été militaires, non, ce sont des intéressés de l'armée. Il ne faut pas oublier que l'Empire des Tang est fondé essentiellement par une aristocratie militaire, à tradition militaire, et qu'il y a des transformations qui se produisent ensuite au XIe siècle, au IXe siècle.
Messieurs, bien que tout ceci soit évidemment lié, que nous progressions dans le débat, je voudrais peut-être arrêter ici ce glissement, ce dérapage vers les explications sociales et politiques. Et Jacques Gernet n'a plus rien à ajouter sur le caractère révolutionnaire de l'œuvre de Needham quant à l'interprétation de de l'histoire de la Chine. J'aimerais que nous arrêtions ici la première partie de notre débat. Et si vous le voulez bien, pour l'illustrer, nous allons lire un des textes cités par Joseph Needham dans son ouvrage. Il concerne un célèbre savant confucéen qui a vécu de 374 à 289 avant Jésus-Christ. Je laisse à Jacques Gernet le soin d'en prononcer le nom, car je l'écorcherai certainement.
Il s'agit de Mengzi, c'est-à-dire de Mencius, philosophe du 3e-4e avant Jésus-Christ.
Alors, ce texte rapporte un dialogue supposé entre Mengzi et sa mère, et qui nous montre quel était l'intérêt pour le travail créateur.
Je crois qu'il faudrait que nous parlions du sujet même du livre de Needham sur la science chinoise et l'Occident, c'est-à-dire nous interroger sur cette différence d'évolution entre l'Europe et la Chine. Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas découvert, ne s'est-elle pas orientée vers une conception des sciences qui aurait été analogue à celle qui s'est développée en Occident? Moi, il me semble qu'il serait indispensable, au moins dans un premier temps, et pour clarifier les choses quand même, de distinguer entre les sciences et les techniques. Parce que l'interprétation sociopolitique et économique de Needham, qui assure que ce sont ces facteurs-là qui ont été déterminants dans le développement des sciences chinoises et aussi dans le blocage des sciences chinoises et des techniques chinoises à la fin de vers le 14e, 15e siècle, je crois que ces facteurs n'ont pas agi de façon aussi directe sur les sciences, sur la pensée scientifique que sur les techniques. On comprend très bien qu'un État ait favorisé le développement des techniques, c'est ce qui s'est fait en Chine, mais par contre, on comprend moins bien pourquoi la pensée mathématique ne s'est pas développée en raison de tel et tel système politique et social. En tout cas, les rapports sont moins médias, sont moins immédiats, ils sont médias. Dans le cas de la science, il me semble que c'est en tout cas mon point de vue.
Oui, moi je pense qu'il faut distinguer entre différents niveaux des inventions techniques. Il y a des inventions comme l'étrier ou une méthode de harnachement plus rationnelle qui ne me semble avoir aucune influence sur le progrès de la science elle-même. Tandis que d'autres inventions techniques, comme la boussole, alors débouchent sur une étude expérimentale du magnétisme. Et même une invention comme la poudre et le canon vont avoir une influence sur le développement de la science, car au XVIe siècle et au XVIIe siècle, il va y avoir des études de balistique expérimentale, et ces études vont participer à la création de la mécanique moderne. Tandis que l'étrier, pour autant que je sache, je ne vois aucune liaison. Mais évidemment, ces inventions ont des répercussions économiques et sociales importantes. C'est pour ça que le mot « science » qui apparaît seul dans le titre de l'ouvrage de Needham me semble devoir être un peu précisé. C'est la science et la technique, en réalité.
Jean-Pierre Bernard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jacques Gernet et René Tatton viennent de dire? Et est-ce que dans ce qui est plus proprement votre domaine, celui de la pensée, de la science grecque antique, vous feriez la même distinction entre science et technique? Et est-ce que les Grecs la faisaient?
Dans le domaine, cette distinction de la science et des techniques, elle est tout à fait frappante en Grèce. Encore que si on prend le vocabulaire, les choses ne soient pas aussi simples, mais il n'est pas question d'entrer dans ce genre de problème. Bon, enfin, on peut dire qu'en gros, il y a une opposition claire entre un savoir qui est un savoir théorique et d'autre part des techniques qui sont simplement des savoir-faire pratiques transmis par apprentissage et qui se développent ou du moins se transmettent indépendamment dans le monde grec de ce qui est proprement la connaissance scientifique. Mais c'est pas ça que... Ça n'est pas le point qui me paraît décisif. Je ne sais pas si je vais soutenir ici Needham, Mais il me semble que les choses, précisément parce qu'elles sont compliquées, doivent être regardées d'assez près. Je prends l'exemple que Tatton vient de citer. Il y a une invention technique, comme l'étrier, et Jacques Gernet dit, on comprend très bien le lien qu'il peut y avoir entre, disons, la société globale et une invention technique. Le rapport est plus étroit, plus immédiat. Mais le cas est tout à fait différent dans le domaine de la science. Mais si on accepte ce qui a été dit tout à l'heure et qui a paru, en effet, faire l'accord quasi unanime, à savoir que l'invention technique de l'étrier est un des éléments qui, pour l'historien, explique l'apparition d'une classe militaire. Est-ce que la liaison ne se fait pas entre des faits techniques, des transformations des structures sociales, et à travers ces transformations des structures sociales, l'apparition de catégories sociales ou d'attitudes intellectuelles qui lèvent des obstacles au développement de tel ou tel secteur de la science?
Oui.
C'est ça, oui, c'est ça le problème.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est que dans le second cas, la relation est médiate.
C'est exact.
Beaucoup plus médiate que
je
dans
crois
le premier.
Elle est médiate dans tous les
elle
cas.
Elle est médiate dans tout, bien sûr. Hein? Enfin, c'est peut-être... pour clarifier la question, simplifier le débat, peut-être.
Oui, je crois qu'il faut en revenir à ce que j'avais dit au début, c'est que l'ouvrage de Needham est un recueil d'articles et de conférences, et que ceci a d'une part donc le mérite de poser les thèses de Needham d'une façon peut-être plus claire et plus nette que dans son grand ouvrage, mais... En revanche, cela a aussi parfois le défaut d'un peu simplifier l'énoncé de ces thèses. Mais pour en revenir au fond du débat, Jacques Gernet.
Bien sûr, mais je crois que pour l'essentiel, on peut dire que l'interprétation de Needham sur la grande question qui est posée ici, à savoir pourquoi la science moderne ne s'est pas développée en Occident, je crois que son interprétation fondamentale est fondée sur la conception de mode de production asiatique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des mécanismes autorégulateurs dans la société chinoise, je crois que je complique un petit peu le problème. Enfin, en gros, c'est ça, qui font qu'on retombe toujours dans le même cercle vicieux. On a une classe dirigeante qui exploite, si on veut, une paysannerie et qui trouve là ses ressources. Si bien qu'elle n'a pas besoin, elle n'a aucune incitation. Il n'y a aucune incitation à ce que le système soit jamais rompu.
Le cercle n'est pas vicieux dans le cas précis pour Needham. C'est un cercle, mais enfin, je veux dire,
oui,
je
parce
fais
que...
un mauvais jeu de mots, je veux dire que ce n'est pas du tout de sa part une condamnation d'un point de vue occidentaliste du monde chinois.
Oui, mais enfin, il oppose quand même l'Occident comme un monde instable politiquement et qui, précisément en raison de son instabilité, se serait développé. Ce serait développé au moins à l'époque moderne.
Jacques Gernet, vous venez de faire allusion à ce qui est effectivement essentiel dans les thèses de Needham et ce qui a fait l'objet récemment encore de grandes discussions entre théoriciens de l'histoire et des sciences sociales, le mode de production asiatique. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions à nos auditeurs, d'une part sur la définition de ce mode de production asiatique, et d'autre part une allusion, nous n'entrerons pas dans un détail qui serait ici fastidieux, des discussions auxquelles cela a pu donner lieu récemment?
J'avoue que je ne suis pas à même de répondre sur ces points.
Jean-Pierre Vernant.
Oh, il me semble... il y a toute une histoire et je crains un petit peu que nous ne dévions du problème de Needham. Mais disons en gros, n'est-ce pas, qu'il s'agit de... Il y a deux problèmes, là. Il y a un problème fondamental avec lequel, je crois, nous serons tous d'accord avec Needham. Et Jacques Gernet me dira si je me trompe, mais je pense que non. C'est que c'est chez les marxistes que cette notion de mode de production asiatique a fait l'objet de débats récents.
À partir de données indiennes.
À partir de données indiennes et à partir d'un certain nombre de textes de Marx, où il était question, en effet, d'un mode de production asiatique qui venait s'ajouter à la commune primitive, au mode de production esclavagiste, féodal et capitaliste. Needham est convaincu que les étapes, les modes, la suite des modes de production qui ont été caractéristiques de l'évolution historique dans le monde occidental ne sont pas valables, ces catégories ne permettent pas de penser l'histoire chinoise.
Exactement.
Bien, je crois que, enfin, sur ce point, il me semble qu'il a raison.
Parfaitement.
Et il fait, de façon un peu rapide, usage de ce concept marxiste de mode de production asiatique pour essayer d'exprimer, dans un vocabulaire qui est le vocabulaire traditionnel du marxisme, et en se référant au texte même de Marx, pour exprimer la spécificité du cas chinois. N'est-ce pas ? Et je crois que sur ce point, nous serons d'accord. Oui. Mais ce mode de production asiatique ne peut pas couvrir à la fois l'Inde, la Chine, certaines sociétés africaines, certaines sociétés amérindiennes avant l'intervention des Européens. Et en ce sens, c'est un concept, si je peux dire, beaucoup trop vaste. En gros, il s'agit d'un système où, à côté de communautés villageoises qui sont fondamentalement vouées à l'agriculture et qui versent un surplus, un État centralisé, bureaucratique, qui perçoit directement ce surplus et qui organise la totalité du système économique, la totalité de la production et des échanges, ne permettant pas que se développe dans les interstices de la société, entre le sommet du pouvoir et cette échelle de fonctionnaires qui s'étendent partout, que se développent des catégories sociales du type marchand ou des choses comme cela. Voilà, en gros, il me semble ce qu'on peut dire sur le mode de production asiatique.
Oui.
Jacques Gernet.
Oui, je pense qu'il y a quand même du vrai là-dedans, dans cette vision des choses. Mais quand Needham en vient à dire que la fonte du fer, que les grandes inventions techniques chinoises, qui ont eu des effets absolument révolutionnaires sur l'histoire de l'Occident, comme l'apparition de l'étrier dont on vient de parler, l'imprimerie, la boussole, la poudre à canon, que quand Needham dit que ces inventions ont été absorbées presque sans secousse par le système chinois, je crois qu'il a tort. Je crois qu'il a tort parce qu'il se réfère à une conception de l'histoire de la Chine qui est en train de s'évanouir de plus en plus. Parce que pour prendre d'abord le cas de la fonte du fer, avec tous ses aspects démocratiques, dit-il, de démocratisation qu'elle introduit, a joué un rôle absolument capital dans la transformation de la Chine archaïque, de la Chine ancienne, au 5e et 4e siècle avant notre ère, et dans l'apparition d'un État centralisé. Et il s'agit là d'une véritable révolution. Ensuite, quand il est question de l'imprimerie, de la boussole, des armes à feu, de l'accroissement considérable de la production rizicole, de la riziculture, du développement de la riziculture savante au 11e, enfin 9e, 10e et 11e siècle, eh bien, là aussi, je crois que nous sommes tentés parce que le vocabulaire reste le même. On parle toujours d'État chinois, de fonctionnaires, etc., de mandarins. Nous sommes tentés de croire qu'il y a continuité. En réalité, j'ai l'impression, mais les analyses ne sont pas encore assez poussées. C'est là qu'est le problème. L'histoire de la Chine n'est pas bien connue dans son fond. Si bien que je crois qu'en réalité, il y a là une véritable révolution dans l'histoire de la Chine et qu'on a affaire à un type de société et d'organisation politique qui est fondamentalement différent de celui qu'on avait jusqu'alors.
Needham, d'ailleurs, à un endroit, et je l'ai noté, dit qu'on connaît trop mal les mouvements sociaux dans l'histoire de la Chine.
Mais c'est certain, mais ce n'est pas seulement les mouvements sociaux, c'est les transformations du système politique et des relations générales. Et je crois qu'on peut affirmer que c'est à cette époque-là, c'est-à-dire au 10e, 11e siècle, que se développe cette classe de rentiers, de fonctionnaires, de lettrés rentiers qui vivent de la rente foncière, qui n'avaient jamais eu cette importance et cette assise et ce rôle dans le fonctionnement de l'État, avec le développement systématique du système des examens, je crois qu'il y a là une nouveauté radicale dans l'histoire de la Chine, avec un développement de l'imprimerie, des connaissances.
À cet égard, d'ailleurs, il y a, me semble-t-il, un rapprochement que l'on pourrait faire entre l'histoire chinoise et l'histoire occidentale, et qui, à ma connaissance, n'a pas été creusé du côté occidental, qui est précisément l'introduction en Occident d'un système d'examen au Moyen-Âge. Je suis persuadé que le fait que le développement des universités, à partir de la fin du XIIe siècle, introduit dans un secteur limité et avec un impact limité, un système d'examen qui est totalement inconnu dans la tradition occidentale, puisque alors les deux grands systèmes de promotion sociale étaient soit le plus courant, tout simplement le système de la naissance, ou comme en particulier dans la Grèce antique, le système du tirage au sort à l'intérieur, bien entendu, d'un système global qui limitait les répercussions révolutionnaires éventuelles du tirage au sort. Mais nous avons un système d'examen qui produit une nouvelle catégorie de ce que nous appellerions presque des technocrates à l'heure actuelle, et il y a là, et je crois que si des historiens de la société médiévale occidentale prenaient pour point de départ et à titre de comparaison les analyses qui ont été faites sur la société chinoise, nous risquerions d'avoir certaines révélations sur l'évolution de cette société. Mais je voudrais fermer cette parenthèse, et de même que Jacques Gernet vient de nous dire ce qu'il pense de l'interprétation de Needham sur l'évolution de la science chinoise, et en particulier du problème des rapports sciences et techniques, j'aimerais bien que Jean-Pierre Vernant et René Tatton nous disent maintenant ce qu'ils pensent de son interprétation sur l'évolution de la science occidentale. Et puisque nous allons peut-être respecter la chronologie, Jean-Pierre Vernant, à partir de la Grèce antique et de ce qu'elle a légué à l'Occident dans le domaine de la science, quelle position prendriez-vous par rapport à Needham?
Eh bien, sur beaucoup de points, je serais assez d'accord avec Needham dans le tableau qu'il brosse des oppositions entre le monde grec ancien et la Chine. Mais je crois que ce qui pourrait être plus intéressant, c'est de poser des questions, de poser des problèmes. Alors, il y en a toute une série et qui permettent peut-être de mieux voir comment les choses se présentent, les configurations qu'elles peuvent prendre dans des civilisations différentes. Je note que pour Needham, la science occidentale a, si je peux dire, des racines dans le géométrisme démonstratif de la Grèce, dans cette espèce d'intérêt pour des essences immuables, pour des démonstrations déductives, et que intervient à un moment donné sur cette espèce de rationalité grecque, à la Renaissance, un élément nouveau qui est le calcul, c'est-à-dire la naissance d'une science expérimentale. Que par conséquent, la grande originalité du développement, c'est qu'à partir d'une orientation de pensée qui, au fond, ne s'intéressait pas tellement au devenir que nous pouvons voir ici-bas, mais construisait un système rationnel de type géométrique, à un moment donné, il a été possible de faire le lien entre cette rationalité déductive et, d'autre part, le concret dans ces changements grâce à l'expérience fondée sur le calcul.
Oui.
Tatton est d'accord avec cette image un peu simpliste.
Oui, oui. Je pense qu'à la Renaissance, justement, nous avons la confluence entre le courant géométrique venu des Grecs et un courant algébrique dont l'origine est beaucoup plus complexe. Car l'algèbre est d'origine chinoise en partie, mais est également d'origine babylonienne.
Bien sûr, bien
et
bien
je
bien.
Crois que dans le monde grec, à l'arrière-plan d'une science théorique, où la géométrie joue un très grand rôle, il y a un calcul fondé en particulier sur les enseignements de l'algèbre babylonienne. Et ce courant se continue, et avec les Arabes, entre le 9e et le 13e siècle, et avec les Indiens à peu près à la même époque, nous avons un développement d'une algèbre beaucoup moins rigoureuse que la géométrie grecque, mais qui permet de traiter des problèmes par le calcul. Et au 15e siècle, on voit en Italie se développer des écoles de calcul, et si bien qu'au 16e siècle, il y a en Europe occidentale, d'une part en Italie, d'autre part en Allemagne, un développement extrêmement remarquable de l'algèbre. Développement d'ailleurs qui se fait dans deux directions différentes, alors que l'école allemande développe le problème des notations, l'école italienne développe au contraire le problème des structures de raisonnement. Et ces deux algèbres ne sont pas tellement faites à l'intention des théoriciens. Ce sont des algèbres qui ont des sources appliquées. Ce sont des algèbres destinés à faciliter les calculs des commerçants et aussi les calculs des navigateurs, etc. Et à la fin du XVIe siècle, il va y avoir cette algèbre qui va se trouver, comment dirais-je, remodifiée par des éléments de rigueur venus de mathématiciens qui, comme Viète, avaient été formés à la géométrie grecque et qui vont s'efforcer d'introduire dans cette science qui s'était développée d'une façon assez empirique des éléments de rigueur analogues à ceux qui existent dans le domaine de la géométrie. Évidemment, ce n'est que tardivement, ce n'est qu'au XIXe siècle que dans l'algèbre occidentale, on retrouvera la même rigueur que celle qu'il y avait dans la géométrie grecque. Mais ceci est un détail, car au fond, les mathématiciens, à partir du XVIIe siècle, vont développer cette algèbre sans trop se soucier d'une rigueur absolue. Et cette algèbre va connaître un développement considérable, donner naissance au calcul infinitésimal et permettre l'étude des problèmes de la science expérimentale.
Jean-Pierre Vernant.
Alors, ceci étant dit, je formule mon problème. Je fais mon petit schéma. Pour Needham, l'explication définitive de ces cours spécifiques de l'histoire sociale et scientifique, c'est l'absence d'une classe de marchands. Il y revient à plusieurs reprises dans la série des textes de son ouvrage. Il dit qu'il n'y a pas eu de marchands, il ne pouvait pas se développer une classe de marchands. Alors, premier paradoxe, nous n'avons pas en Chine une classe de marchands, mais la science chinoise est une science arithmétique, c'est-à-dire une science de la mesure et du calcul, et il montre à quel point ils ont beaucoup plus que les Grecs, et beaucoup plus que l'Occident, jusqu'à une période qui est celle de la science, disons, moderne, s'est intéressé à des problèmes d'exactes mesures et de calcul. Alors, et en même temps, malgré tout, dans le schéma weberien qui est le sien, cette classe de marchands, c'est essentiellement une classe de gens qui, par leur activité pratique et leur mode de vie, pensent en termes de mesures et de calcul. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe. Il n'y a pas dans les villes chinoises, les villes chinoises ne sont pas des villes bourgeoises. Mais, c'est la thèse de Needham. Mais, la ville grecque, il parle très souvent de ce qu'il appelle la ville-cité, ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas non plus de marchands. Il n'y en a pas, du moins je veux dire que dans le cadre des institutions politiques de la cité, il n'y a pas non plus de marchands. Par conséquent, premièrement, il faut distinguer des orientations vers le calcul et la mesure dans le contexte intellectuel qui est lié au type de société et de civilisation chinoise et un type de calcul et de mesure différent dans le contexte d'une classe mercantile. Deuxièmement, dans le contexte d'une civilisation urbaine comme celle de la Chine et de la Grèce, il peut y avoir, même s'il n'y a pas dans aucun des deux cas une classe de marchands, des orientations intellectuelles et scientifiques opposées, puisque, si je reprends son schéma, les Grecs sont géomètres et eux sont des gens qui font de l'arithmétique et du calcul. Donc, nous voyons ici, me semble-t-il, comment les problèmes se posent, et il me semble que là, il faut faire intervenir toute une série de niveaux d'explication qui sont des niveaux différents et qui tiennent à la fois aux structures sociales et politiques. C'est ce que j'ai essayé de faire pour ma part en essayant de montrer que l'orientation géométrique de la science grecque était liée à des formes particulières de vie sociale et politique, même s'il n'y a pas de classe de marchands. Et peut-être faut faire aussi intervenir des éléments qui ne tiennent pas seulement à ce qu'on peut appeler les structures sociales ou le mouvement historique, mais aussi à des espèces d'orientation fondamentale qui tiennent à des formes de culture. Je pense au fait que la civilisation grecque est une civilisation orale, est une civilisation de la parole, que l'écriture en Grèce est dans la ligne de la parole, puisque c'est une écriture fondamentalement, et dès le départ, dès que nous avons l'écriture telle que nous la connaissons, dérivée des Phéniciens, est une écriture phonétique qui reproduit, qui imite le discours, alors que l'écriture chinoise n'est pas une écriture qui, au départ, imite le discours, mais qui trouve une expression symbolique, idéographique de ce que les choses sont elles-mêmes. Et que, par conséquent, nous avons là des types de pensée, des types de réflexion et de déchiffrement de l'univers qui sont différents. Jacques Gernet, dans un travail que nous avons fait en commun, a bien montré en particulier comment il y avait, dans une civilisation scripturaire, comme la Chine, et c'est vrai aussi pour Babylone, un intérêt pour les structures graphiques, si je peux dire, pour le décryptage des configurations symboliques qui va dans le sens d'une orientation intellectuelle sensible au rapport entre le microcosme et le macrocosme, aux aspects d'ordre, de diffusion, d'influence, alors que l'orientation de la Grèce vers la parole tente à orienter la réflexion scientifique, à la modeler sur l'image de ce qui se passe dans une assemblée politique, c'est-à-dire d'une démonstration argumentée de caractère dialectique où des discours s'opposent, où on oppose des preuves argumentées à d'autres, c'est-à-dire des orientations intellectuelles profondes qui, derrière les différences et à travers les différences d'organisation sociale, relèvent aussi d'éléments qui sont beaucoup plus fondamentaux et qui tiennent aux techniques intellectuelles employées, en quelque sorte, à la base.
D'une part des discours et de l'autre des modèles structurés.
Et d'autre part des modèles structurés, des modèles graphiques, l'intérêt pour ces figurations, ces configurations symboliques. Je crois qu'il y a là des éléments différents. Et en particulier, il y a le fait que la divination, c'est-à-dire des techniques qui sont des techniques que nous considérons comme purement religieuses, mais qui en réalité sont des entreprises de décryptage de l'univers, la science chinoise, dans beaucoup de domaines, par exemple l'arithmétique, ce développement de l'arithmétique paraît bien dérivé d'une technique divinatoire chinoise qui est la divination par aquilée, par des petits jets de bois dont on compte comment ils se combinent, alors que donc il y a une sorte de continuité entre une pensée symbolique divinatoire et une pensée scientifique qui est aussi orientée vers les symbolismes, et d'autre part, au contraire, dans le monde grec, une espèce de coupure radicale qui donne au processus rationnel des arêtes plus vives, plus dessinées, parce que c'est la coupure complète avec la pensée divinatoire.
Jacques Gernet, pendant que Jean-Pierre Vernon parlait, vous avez manifesté parfois quelques signes d'envie, je ne sais pas si c'est de protester ou de corriger, certainement pas, je pense, sur la dernière partie de son propos, mais peut-être sur ce qu'il disait d'après Needham.
Non, ce que je trouve que ce que Jean-Pierre Vernon a dit là est absolument capital et va au fond des choses. C'est vraiment très important. Mais si j'ai eu envie de prendre la parole, c'était à propos du paradoxe. Le paradoxe d'une société qui enregistre, mesure, calcule, enfin le sens du calcul, et qui n'est pas une société marchande. Mais je crois que là, l'explication est très claire et très simple. Et d'ailleurs, elle est fondamentale dans l'opposition qu'on peut faire entre la Chine et l'Europe médiévale. C'est que au lieu d'un morcellement politique extraordinaire, très très poussé, d'une multitude, d'un enchevêtrement de juridictions, de cloisonnements sociaux qui sont très stricts, très très profonds, d'une pauvreté générale aussi, on a en face de cela une abondance relative, une richesse relative, une unification politique, un moyen d'expression unique dans la langue écrite, une uniformité générale des lois et une absence générale de cloisonnements sociaux qui a été très favorable. L'ensemble de tout cela a été très favorable au développement des techniques utiles. Et précisément, l'État a joué dans le développement de ces techniques utiles en Chine. Je crois que Needham le dit, mais en même temps, il maintient sa thèse que c'est le système, la classe lettrée dirigeante qui a empêché le développement des techniques. Mais c'est peut-être vrai, mais il faut quand même insister sur l'apport considérable, le rôle considérable de l'État dans le développement des techniques utiles. L'État chinois a favorisé la diffusion des inventions. Elle a favorisé le génie inventif par des primes. Il a favorisé le génie inventif. Il a favorisé la diffusion de manuels d'agronomie, de manuels de pharmacopée, particulièrement à l'époque au XIe, XIIe siècle. C'est frappant, c'est frappant. L'État fait des espèces, organise des espèces de concours d'armes nouvelles pour se défendre contre la steppe. Et on a toute une série d'expérimentations. On expérimente ces armes pour voir quelles sont les meilleures. Et une fois qu'elles ont été adoptées, on fait faire un schéma du montage de l'arme qu'on diffuse à tous les arsenaux de la Chine. Et donc il y a l'idée d'expérimentation, même aussi pour les plantes médicinales. On les expérimente. Il y a des expéditions scientifiques qui sont organisées par l'État. J'ai fait allusion tout à l'heure à ces grandes expéditions scientifiques, les premières de l'histoire du monde. Et en fait, ensuite, toute une série de mesures, d'enregistrements. Et il faudra ajouter aussi l'apparition très précoce d'une géographie quantitative qui est fondée sur les distances, sur la mesure des distances, et non pas, comme en Occident, une géographie mythique qui... centré sur Jérusalem. Et puis enfin, pas d'opposition dans ce système politique, dans cette classe politique, pas d'opposition aux inventions qui épargnent le travail, l'effort humain. Et ça, je crois que c'est capital. La Chine a toujours favorisé, enfin au moins jusque, disons, le XVIe siècle, favorisé les inventions qui épargnaient le travail humain. Et Needham ajoute, et là je crois qu'il a tort, en dépit d'une population surabondante, en dépit d'une main-d'œuvre apparemment inépuisable, ce qui est faux historiquement, parce que la grande période de développement du peuplement chinois se situe au XVIIIe siècle. C'est quelque chose de moderne. XVIIIe siècle est tout début du XIXe siècle. Et puis je ne parle pas du plus récent développement qui se situe au XXe. Mais enfin... je crois que Needham a tort de sous-estimer le rôle de cette unification politique et de ce système étatique.
Oui, je me permets de dire que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il le sous-estime autant peut-être que vous venez de le dire, car nous retombons sur sa thèse dont nous reparlerons encore, je pense, dans la dernière partie de notre débat, qui serait, me semble-t-il, l'incitation de l'État a, pendant une période assez longue, favorisé le progrès économique et technique, et puis a été ensuite un élément de freinage et d'immobilisme.
C'est pour ça que finalement je serais assez tenté de rejoindre Needham, parce que il me semble, mais c'est presque plutôt une intuition et une impression qu'une certitude. Mais enfin, il y a quand même toutes sortes d'indices qui font penser qu'il y a eu un changement d'attitude après l'époque mongole. Quand cette classe de rentiers fonctionnaires s'est bien développée, s'est mise en place, n'est-ce pas, ça se situe au XIe, XIIe siècle, après l'époque mongole, c'est-à-dire au XVe et XVIe siècle, on a l'impression que se développent certaines attitudes de mépris à l'égard du travail manuel, à l'égard des techniques, des tendances absolutistes aussi se font jour, beaucoup plus nettes qu'avant, et il y a une moindre fécondité des inventions techniques. Ça, c'est très remarquable. 15e, 16e siècle, ce sont des siècles qui sont pauvres du point de vue de l'histoire des techniques. Si on fait exception des méthodes d'immunologie, de variolisation, et du point de vue philosophique aussi, le soupçon de l'existence d'hormones. Mais du point de vue philosophique, on a une très nette tendance à l'introspection. Il n'y a plus que des individus isolés, des espèces de phénomènes exceptionnels qui restent intéressés par les choses concrètes.
Voulez-vous que nous arrêtions provisoirement ce débat? Je me permettrai d'ajouter que, comme d'ailleurs Needham l'évoque, me semble, si je me rappelle bien, dans une phrase, il y aurait peut-être une évolution comparable qu'il serait intéressant d'analyser de plus près et de mettre en parallèle avec l'évolution chinoise. C'est celle qu'a connue le monde arabe, le monde musulman, où il y a eu aussi un blocage du même genre, situé plutôt vers le 11e, 12e siècle. Vous, Jacques Gernet, vous mettez l'évolution chinoise en rapport avec les Mongols, on la mettrait aisément dans le monde arabe et dans le monde musulman en rapport avec les Turcs. Cela d'ailleurs a été fait par les spécialistes. Et il y aurait alors là quelque chose qui compliquerait le schéma, c'est que, à la différence des Chinois, les Arabes, le monde musulman, ont connu le développement d'une véritable classe de marchands est extrêmement importante entre le 7e et le 12e siècle. Et là aussi, cette classe de marchands a malgré tout, je ne veux pas redonner raison à Needham dans ses schémas d'interprétation, il reste que il y a là des phénomènes qu'il faut voir de plus près et que seul un éclairage comparatiste peut nous donner. René Tatton.
Oui. L'existence de cette classe de marchands n'a pas empêché la science arabe de bien connaître la géométrie grecque, de la comprendre et de la développer. Et je crois, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Vernon, il me semble que dans le domaine des sciences exactes, il y a opposition absolue entre la logique de la mathématique grecque et la mathématique chinoise.
Pour clore cette seconde partie de notre débat, voulez-vous que nous lisions un autre des textes que donne Needham dans son ouvrage? Cette fois-ci, il s'agit d'une discussion sur le temps et l'espace qui montre l'intérêt des classes cultivées chinoises sur ces deux problèmes fondamentaux de la philosophie et de la science, et s'est emprunté à un ouvrage lui aussi très ancien, achevé à la fin du 4e siècle de notre ère, mais composé sans doute à partir du 4e siècle avant notre ère. Dans la partie antérieure de ce débat qui réunit autour de notre micro Jacques Gernet, René Tatton et Jean-Pierre Vernon, à propos de l'ouvrage de Joseph Needham, « La science chinoise et l'Occident », récemment paru aux éditions du Seuil, on a abordé les conceptions de Joseph Needham, de la science, de l'évolution différente de la science dans le monde chinois d'une part, dans le monde occidental de l'autre, et l'on a examiné sa thèse essentielle, qui était l'explication de ces évolutions par des facteurs externes, économiques, sociaux, politiques. Ces facteurs n'ont pas été niés par ceux qui sont autour de ce micro, loin de là, mais ils ont, et je crois à juste titre, insisté sur l'impossibilité qu'il y a de séparer ces facteurs externes d'une analyse du développement interne des courants scientifiques et des inventions techniques. Je crois que nous allons revenir davantage dans cette dernière partie de notre débat sur les structures internes de la pensée scientifique en Occident et en Chine, sans négliger pour autant ce contexte, cet environnement économique et social auquel on fera encore allusion. Et je pense que il faut maintenant partir d'une des analyses les plus importantes de Joseph Needham, celle qu'il fait de la notion de loi et de la différence fondamentale qu'il y aurait, selon lui, entre les conceptions de l'Occident ou, par suite peut-être, de croyances religieuses, de la croyance en l'existence d'un Dieu unique et législateur, l'Occident en serait venu à l'idée de loi dans la nature, de principes régissant absolument tout un ensemble de phénomènes, alors que une telle conception religieuse, avec ses implications politiques et scientifiques, n'aurait pas existé en Chine. Jacques Gernet, qu'en est-il pour la Chine au moins ?
Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire des sciences en Occident, mais je voudrais dire comment je vois les choses. Il me semble que le saut décisif qui a fait passer d'un système scolastique, d'un système de corrélation gnomique, d'un système où on avait affaire à du qualitatif essentiellement, à un système où il n'y a plus que du quantifiable et du mathématisable, ce saut peut-il s'expliquer uniquement par une recherche des fins utiles ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ces fins utiles aient été le moteur de cette transformation. Parce que ce sont en fait, si je ne m'abuse, des astronomes.
Oui.
Ce sont des astronomes, des mathématiciens qui ont fait subir ce saut à la science. Aussi, chose très importante qu'on ne peut pas négliger, c'est la formation progressive, le développement progressif d'un nouvel outil qui va jouer un rôle capital dans le développement des sciences modernes, qui est l'outil mathématique, avec le développement de l'algèbre, de la géométrie analytique, du calcul infinitésimal. Aussi longtemps qu'on n'a pas cet outil, comment voulez-vous que les sciences modernes se développent ? Je crois qu'il y a là un problème absolument fondamental. Au point de départ, je crois que l'idée que le monde était construit sur les mathématiques, l'idée occidentale que le monde était construit sur les mathématiques a été déterminante. Donc on en vient au problème fondamental de la loi, de la notion de loi. Je crois que sur ce point, Needham a, pour ce qui est de la Chine, à la fois tort et raison. Je crois qu'il a tort lorsqu'il dit que la loi naturelle chinoise est seulement éthique et humaine. Ce n'est pas vrai. La loi naturelle chinoise, la notion d'ordre, disons, chinoise, parce qu'il a pris la notion de loi dans un sens un peu trop restreint, la notion d'ordre chinois, c'est une notion générale, une notion cosmique qui englobe l'homme, la société et les phénomènes naturels. Et je crois même que c'est là précisément que gisait le danger, qu'était le danger qui faisait que la Chine ne pouvait jamais sortir de ce cercle de pensée, de ce cercle vicieux. Mais je crois qu'il a raison au contraire quand il souligne l'absence totale de l'idée d'une puissance créatrice rationnelle qui aurait dicté ses lois à la nature. La philosophie chinoise, c'est une philosophie de l'ordre immanent. Et il y a évidemment des liens avec le système politique et social chinois, entre cette philosophie et le système politique et social chinois. Et je dirais même que cette philosophie immanente de la nature, cette philosophie immanente a permis aux Chinois des intuitions beaucoup plus justes et parfois beaucoup plus modernes, qui nous apparaissent très modernes. Et en même temps, elle les a condamnés à rester enfermés dans un système de pensée dont on ne pouvait jamais sortir. Il y a chez les Chinois une approche beaucoup plus sympathique au sens profond de la nature qu'en Occident, je crois. C'est un refrain continuel dans toute la pensée chinoise, s'adapter à la nature, arriver à produire le plus grand effet par le plus petit effort, avec le plus petit moyen, ne jamais trop intervenir, être toujours en accord avec le monde et avec la nature. En matière d'action, non seulement physique, technique, mais en matière d'action sociale, d'action politique, ça a toujours été, d'ailleurs, Needham le dit en passant. Et au lieu, par conséquent, d'une opposition entre un ici-bas qui est fluctuant, où le rationnel est mêlé avec l'irrationnel, le divin est mêlé avec le profane, eh bien, au lieu de cette opposition entre ce monde et puis un au-delà transcendant qui est le royaume des vérités pures, le royaume de Dieu, eh bien, les Chinois voyaient une harmonie générale. Ils voyaient un accord entre l'homme et le cosmos.
Oui, je me permets de vous interrompre pour lire une citation que je trouve encore très belle, qui est d'un philosophe chinois du XIe siècle qui critique le bouddhisme. « Quand il s'efforce seulement de comprendre le haut sans étudier le bas, comment pourrait-il bien comprendre correctement le haut ?» Oui. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important et de tout à fait capital, car je crois aussi que dans le domaine occidental, la pensée qu'on a pu avoir justement sur les relations entre le haut et le bas était quelque chose de très important, et on verrait des différences profondes. Mais je vous en prie, Jacques Gernet, je voulais simplement glisser cette citation à l'appui de ce que vous disiez.
Je voudrais continuer un petit peu, parce que je crois que Needham n'a pas été au bout de son analyse. Là, dans l'idée chinoise, le sage, c'est-à-dire celui qui a su conserver sa pureté originelle intacte, son rapport avec le monde intact, ou qui sait le retrouver, eh bien, le sage seul a l'intuition de cet ordre universel et dynamique. Et c'est à une méthode directe et intuitive que les philosophes chinois se sont toujours livrés. C'était ce qu'ils appelaient le kou, c'est-à-dire scruter les choses, épuisés, aller jusqu'au bout de leur lit, c'est-à-dire de leurs principes structurants, arriver à, par une intuition directe, avoir le sentiment de leur ordre structurant, qui était un ordre universel et qui se reflétait dans les organismes plus petits. Et cette méthode était vouée à l'échec, de toute évidence. Je dirais qu'en un sens, les Chinois ont été trop vite. Ils ont sauté l'étape intermédiaire qui était celle de l'analyse mathématique. D'ailleurs, Needham le dit lui aussi. Il y a des idées justes qui rejoignent les idées modernes, l'idée d'organisme, l'idée d'autorégulation des organismes, mais sans l'outil mathématique, par conséquent, il n'y a pas d'issue.
Et maintenant, si nous passons au paysage occidental, et en particulier à la notion de loi, que voyons-nous, Jean-Pierre Vernant?
Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait dans le monde grec une notion de loi scientifique, de loi de la nature. Nomos, ce sont des règles de la législation humaine. Bien entendu, il y a toute une évolution sémantique de ce terme, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que les Grecs ont eu réellement une notion analogue à celle de la pensée scientifique contemporaine de la loi scientifique. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que il me semble qu'il y a une opposition entre la conception de l'ordre que Gernet mettait en lumière dans la pensée chinoise et la notion de loi. Et que sur ce plan, il y a bien des implications entre le politique au sens le plus général du terme et d'autre part les attitudes intellectuelles et la pensée scientifique. Je m'explique. Il y a un point que Needham souligne en reconnaissant sa dette par rapport à Audricourt. Il souligne que la conception même du pouvoir politique dans la vie sociale, à l'intérieur du monde chinois et du monde occidental, disons du monde indo-européen, est très différente. Audricourt disait, et c'est quelque chose que Jacques Gernet connaît bien, qu'il y a une opposition entre la conception du pouvoir, et par conséquent de la loi aussi, et de l'ordre, entre des peuples qui sont des peuples jardiniers et des peuples qui sont des peuples de pasteurs. Parce que pour des peuples de pasteurs, comme sont les Indo-Européens, le pouvoir, c'est celui qui s'exerce à partir d'un individu sur un animal pour le guider, et pour le guider quelquefois à coup de bâton, c'est-à-dire qui impose un ordre au sens que c'est la loi que je t'impose.
Oui, d'où la facilité avec laquelle, quand l'Église est devenue la maîtresse de l'Occident, elle a emprunté l'image du pasteur pour le donner à l'évêque.
Bien entendu. Alors que on ne peut pas ne pas être frappé, quand on lit Needham, par le fait que toute une série de textes montre que le bon empereur, le sage qui fait son métier, c'est celui qui n'agit pas ni sur autrui ni sur les choses. C'est-à-dire comme le jardinier qui doit simplement faire en sorte d'enlever les petites mottes de terre pour que la plante pousse toute seule suivant sa spontanéité. Le bon empereur, c'est celui qui étant en sympathie avec l'ordre cosmique, en résonance et en symbiose avec lui, fait que toute chose et tout être pousse suivant sa logique immanente.
Oui. Ou alors qui n'agit qu'en accord avec la nature.
Ou alors qui agit lui-même en accord.
Que dans le sens de la nature.
Alors là, je crois qu'il y a un élément qui est considérable et dont les conséquences sont énormes, parce que les choses sont bien entendu ambiguës. Je crois d'abord que c'est seulement dans une société où il existe une conception du pouvoir comme puissance contraignante imposée par autrui à une collectivité, que peut également se définir, comme ce sera le cas dans le monde grec, et ce qui à mes yeux explique certaines orientations de la pensée grecque, que peut se définir l'idée d'une société où personne n'exerce ce pouvoir, c'est-à-dire de l'homme libre. Dans une société où c'est cette notion d'ordre immanent qui est fondamentale, chaque chose et chaque être est à sa place dans une hiérarchie organique et qui est en sympathie. De sorte que l'inconvénient de ce que cette brutalité dans l'image du pouvoir peut comporter, elle est aussi compensée par le fait que, au moins dans le monde grec, il y a une volonté de déposer ce pouvoir au centre et de faire en sorte que des gens qui ne sont soumis à aucune autre autorité que la leur et que celle de la loi, car qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour les Grecs, ce qui doit exercer le pouvoir, c'est nomos, c'est la loi. Et par conséquent, ils feraient la voie, même s'ils n'en ont pas l'idée sur le plan scientifique, à l'idée qu'il y a un ordre du monde qui repose sur une loi. Et certains de leurs philosophes déjà entrevoient cet élément. Alors, ça, c'est un premier élément, très important, je crois, et où il me semble que Needham a raison. Et on a un deuxième, c'est que dans ce genre de système, il y a en effet une opposition entre un ordre immuable, et puis d'autre part, le monde d'ici-bas, qui est celui de l'à-peu-près, du désordre. C'est au fond l'opposition de la raison et du sensible, et que la science moderne supposait, premièrement, que ces deux plans soient absolument distingués, et secondement, qu'ils se rejoignent. Mais pour qu'ils se rejoignent, il fallait d'abord qu'ils aient été radicalement opposés. C'est-à-dire qu'on constitue un monde d'essence rationnelle immuable, et puis un monde dont on disait, bon, on ne peut pas en dire grand-chose. Et puis alors, ensuite, à un moment donné, venait le problème de les faire se réunir. Tandis que dans la notion d'ordre, on peut aller beaucoup plus loin, voir toute une série de choses, mais en même temps, il n'y aura pas ni cette distance, ni cette possibilité de les faire se rejoindre, parce qu'ils n'ont jamais été disjoints.
Et maintenant, donc, nous arrivons au moment où se rejoignent ces notions distinguées dont vient de parler Jean-Pierre Vernant, à ce que Needham appelle la naissance de la science moderne, ou encore la coupure galiléenne, car pour lui, le moment essentiel se situe entre Copernic, initiateur, mais qui n'a pas encore formulé la conception de la science moderne, qui apparaît véritablement avec Kepler et avec Galilée, et avec l'émergence de la notion de loi scientifique, qui apparaîtrait, si j'en crois Needham, pour la première fois, dans un cadre un peu particulier, celui, disons, des sciences naturelles, avec Agricola, mais qui, en fait, prendrait véritablement de l'importance au début du XVIIe siècle. Êtes-vous d'accord, René Tatton ?
Oui, je pense en effet que cette notion de loi, telle qu'on la définit généralement, apparaît dans la période qui se situe entre Copernic, en 1543, la rupture, la destruction du système géocentrique, et j'irai plus loin que Needham, je dirais Newton. avec la loi de la gravitation universelle en 1687, qui est une loi qui permet de comprendre tout le fonctionnement du monde. Alors, avec Copernic, nous avons donc destruction du système ancien, du système cosmologique, et passage progressif du monde clos à l'univers infini, comme a dit Alexandre Colliré. Ceci va se compléter avec Kepler et avec Galilée, qui vont montrer que non seulement l'univers ptoléméen ne permet pas d'expliquer correctement le fonctionnement véritable de notre univers, que nous avons un système héliocentrique et non pas un système géocentrique, mais que la distinction aristotélicienne entre le monde céleste et le monde sublunaire n'existe pas et qu'il y a fusion entre la physique céleste et la physique terrestre. Alors, il me semble que c'est à ce moment-là que la notion de loi universelle apparaît, peut apparaître. Et c'est pourquoi Galilée, dans le Saggiatore, va donner sa déclaration célèbre où il dit que toute la nature est écrite en langage mathématique avec des symboles et des lettres. C'était une affirmation très audacieuse, car à l'époque de Galilée, au moment où il écrivait cela, le nombre de lois qui pouvaient s'écrire en termes mathématiques était très réduit. Mais alors, au cours du XVIIe siècle, ce nombre de lois va augmenter dans des domaines privilégiés, les domaines de l'astronomie et de la mécanique. Tout d'abord, ce sont les deux domaines qui vont se mathématiser, et ceci grâce au développement parallèle des mathématiques, car aussi bien les mathématiques grecques que l'algèbre telle qu'on la connaissait se révéleront insuffisantes. Ce qu'il faudra, c'est créer le calcul infinitésimal. Mais grâce à ce calcul infinitésimal, la nature va pouvoir être étudiée avec l'outil mathématique, et alors on va voir apparaître cette notion de loi dans les sciences théoriques. Alors je comprends très bien que Needham, qui est un biologiste, voit d'exagérer dans cette position, car au fond, cette notion de loi, cette notion d'explication générale par une loi simple comme la loi de Newton, ça va très bien dans le monde physique, ça va très bien dans le monde des astres, mais dans le domaine de la biologie, les choses sont beaucoup plus complexes et ce seront des approches beaucoup plus compliquées qui vont permettre d'aboutir progressivement au développement de la science moderne. Mais là, les disciplines vont se développer avec des retards différents suivant la facilité avec laquelle la logique et la mathématique vont pouvoir s'introduire dans leur étude.
Bien, messieurs, je pense que nous serions, pour terminer ce débat, d'accord sur deux propositions. L'une qui n'est pas tout à fait chez Needham, mais que certainement il ne renierait pas, qui est que, pour comprendre l'évolution scientifique des diverses civilisations, il faut les suivre dans l'ensemble de l'univers historique, non seulement dans l'ensemble chinois et dans l'ensemble occidental, mais dans les autres ensembles qui, ici et là, affleurent dans le livre de Needham et qui ont affleuré dans notre débat. Je songe au monde de l'Antiquité, par exemple au monde babylonien, je songe au monde de l'Inde, où il faudrait creuser le contraste que certains ont vu, auquel Needham fait allusion, entre une civilisation qui serait rebelle à l'histoire, l'indienne, face à des civilisations qui, à travers leurs différences, et ça a été le thème du livre et le thème de ce débat, l'occidentale et la chinoise, se retrouveraient en définitive pour insister par des voies différentes, sur la valeur du temps, du progrès, de l'histoire. Et puis surtout, je pense que nous serons d'accord avec ce qui a été un des buts de Needham dans ses travaux et un de ses buts en écrivant les essais qui ont donné ce livre. Il faut admettre, dit-il, que les hommes des cultures asiatiques ont contribué eux aussi à poser les fondements des mathématiques et de toutes les sciences dans leur forme médiévale, et par là, à construire la scène où devait s'accomplir la rupture décisive qui survint dans le milieu social et économique favorable de la Renaissance. Il faut aussi prêter plus d'attention à l'histoire et aux valeurs de ces civilisations non-européennes qui sont en fait tout aussi élevées et exaltantes que la nôtre. surtout si l'on ajoute, comme l'a fait Jacques Gernet, que l'action d'une science comme la science chinoise ne s'est pas limitée à la période antérieure à la Renaissance occidentale, mais qu'elle a pressenti et mis en circulation des notions importantes pour les sciences modernes et les plus contemporaines.
Oui, je voudrais répondre au point précédent, à savoir que Needham s'occupe surtout de la Chine et pas tellement de l'Inde et du monde islamique. C'est normal, son sujet est la Chine. Non, alors pour ce qui est des influences chinoises sur la pensée scientifique occidentale, je crois que l'apport du magnétisme a été capital. L'apport du magnétisme qui a permis l'explication par l'attraction universelle. La notion de champ de force qu'elle a permis de dégager aussi en physique. C'est aussi cette notion d'ordre totalisant. Needham ne parle pas de ça, mais il le dit ailleurs. Leibniz aurait été influencé par les idées chinoises. Et Leibniz joue un rôle capital dans le développement de la pensée scientifique moderne. Et j'ajouterais aussi, car je crois qu'on ne peut pas séparer la science de la philosophie, j'ajouterais le rôle de la Chine, des conceptions politiques chinoises dans l'évolution des idées au cours du XVIIIe siècle. Ça a été capital. Ça a été capital pour briser aussi l'autre univers social et politique et religieux. Je crois qu'on pourrait prolonger la réflexion de Needham bien au-delà, l'élargir aussi.
Pour terminer, un dialogue Orient-Occident, un dialogue Occident-Chine, un poème chinois de Bertolt Brecht.